Radio Kapi.
Ans de prison pour Vital Kamerhe, 6 ans pour Jamal Sami et 1 an pour Jano Muima. C'est le verdict au procès anticorruption de 100 jours rendu hier soir à Kinshasa par la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Le secrétaire général de l'UNC de Kamerhe parle d'une parodie de justice. Le chef de l'État est arrivé hier à Beniville. Félix-Antoine Tshisekedi doit se rendre à la frontière avec l'Ouganda pour lancer les travaux sur la route Kasindi-Beni-Butembo. Entre-temps, le monde célèbre aujourd'hui la journée de l'enfant africain. Le thème, l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. Et puis, les groupes armés continuent d'être actifs dans le Nord Kivu et l'Ituri malgré l'état de siège et des actions militaires sur place. La présence du chef de l'État dans la partie est du pays va changer la donne, estime le coordonnateur du processus DDRC au Nord Kivu. Jacques Katembo est notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord, ce drame au Congo central, 6 morts et des dégâts matériels importants, bilan encore provisoire d'un accident de circulation survenu hier mardi soir au parking des motos du Pompozo, situé à l'entrée de la ville de Matadi. L'association des chauffeurs du Congo, ASECO, qui avance ce chiffre, indique que la Croix-Rouge poursuit les recherches sous les épaves pour retrouver d'autres victimes. Le récit de Nana Plurish Mambou.
Selon les témoins, c'est dans la soirée qu'un camion remorque de marque Volvo d'un particulier provenant du port de Matadi en panne de frein a terminé sa course au parking des motos situé juste à l'entrée du pont Pozo à Matadi. Ce véhicule a sur son passage emporté quelques motocyclistes et leurs engins et un restaurant de fortune avant de percuter un camion frigorifique de l'entreprise Contrefort qui à son tour est tombé sur un bistrot qui s'y trouve. La police qui est venue quelques temps après sur les lieux du drame dit avoir évacué 3 morts. Mais les agents de l'association des chauffeurs du Congo dont les bureaux se situent aux alentours du lieu de l'accident parlent de 6 morts, d'une dizaine de blessés et d'importants dégâts matériels constitués de marchandises des femmes qui vendent dans ces parkings. Le même agent de la SECO affirme aussi qu'en lieu et place de secourir les accidentés, les badauds ont pillé une bonne partie des poulets qui contenaient les camions frigorifiques percutés par les camions Volvo qui a provoqué l'accident. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital provincial de Kinkanda. Les victimes sont aussi à la morgue de ces mêmes hôpitaux. Pour l'heure, la police monte la garde pour empêcher la poursuite du pillage. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Je vous disais en titre, Vital Kamerhe écope de 13 ans de prison, l'entrepreneur libanais Jamal Sami 6 ans et Jano Muima 1 an, c'est la sentence au procès anticorruption de 100 jours. La cour d'appel de Kinshasa Gombe a rendu son verdict dans la soirée d'hier à Kinshasa après une longue attente. La peine de Kamerhe a été donc réduite de 20 ans des travaux forcés au premier degré à 13 ans au second degré. Il ne reste plus qu'une seule voie de recours pour les condamnés, à savoir le pourvoi en cas. Rappelons que le président de l'UNC et ses co-détenus ont été reconnus coupables de détournement des fonds alloués au programme des 100 jours du président de la République, mais les condamnés ne cessent de clamer leur innocence. En réaction, Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, parle d'une parodie des justices. Il a été joint par Billy Vandutumba.
D'abord, il faut dire que cette condamnation est tout simplement la preuve, encore une fois démontrée, que c'est une machination politique ignoble et ceux qui sont dans cette affaire, ils se font mépriser non seulement au pays, mais aussi à travers le monde. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est tout simplement la confirmation que notre justice n'a jamais acquis son indépendance parce que, figurez-vous, que Monsieur Jamal, qui avait perçu l'argent, qui avait le marché, c'est-à-dire c'est le principal accusé, il est condamné à 6 ans, mais Kamerhe, notre président, qui n'a jamais, en tout cas depuis le début de cette procédure, on n'a jamais démontré à quel niveau il est intervenu dans ce marché. Mais c'est lui qui écope de 13 ans. Nous disons tout simplement que c'est les ridicules qui couvrent cette parodie de justice.
En plus bref, sachez que le Sénat a voté hier contre le réquisitoire du procureur près la Cour constitutionnelle demandant la levée des immunités des sénateurs Matata Ponyo et Ida Kamonji poursuivis dans l'affaire détournement des fonds du projet Bukangalozo. Sur 96 sénateurs votants, 46 ont voté pour et 49 contre la levée des immunités de l'ancien Premier ministre, un seul bulletin nul. De même pour l'ancienne directrice générale de la Société d'aménagement et de gestion du parc Société Parc Agri SA, 51 sénateurs ont voté contre la levée de ces immunités. En conclusion, les sénateurs Matata Ponyo et Ida Kamonji sont exemptés de toute poursuite judiciaire dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Parlons justement de ce parc agro-industriel. Voici la suite de l'enquête de Radio Kapi sur Bukangalonzo. Alors que ce projet avait déjà commencé à produire et commercialiser le maïs depuis 2015, le projet s'est arrêté en 2017 par manque de financement. Selon Africom et les travailleurs de Bukangalonzo, la débâcle de ce projet a débuté avec le départ de Matata Ponyo de la primature et le refus du nouveau gouvernement de continuer à le financer conformément au contrat de gestion signé avec Africom. Explication de Michel Kifindangoy.
D'après les cadres congolais du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui se sont confiés à Okapi lors de notre enquête, ce projet aurait été combattu par un groupe d'hommes d'affaires expatriés qui tiennent aujourd'hui le secteur alimentaire congolais. L'un d'eux s'exprime sous couvert d'anonymat.
Compte tenu de la publicité faite par rapport à Bukangalonzo, ça a permis à certains opérateurs économiques de comprendre qu'il pourrait y avoir un danger de parc.
Au-delà des affirmations des congolais du parc, le docteur Alain Moukoua, consultant à l'Union africaine et directeur des urgences vétérinaires et agronomiques de la RDC, plaide pour que le gouvernement développe une bonne politique agricole.
S'il existe des banques agricoles, des structures d'accompagnement de la population locale, ces Indo-Pakistanais et tous ces Libanais n'auront plus de place. Moi, je travaille dans les domaines agro-vétérinaires. On n'a jamais eu de l'aide, mais tandis qu'ils ont accès à des fonds assez importants pour importer ce qu'ils importent là. Et donc, c'est à l'État d'ouvrir les yeux.
Docteur Alain Moukoua déplore cependant que tous les projets pouvant lutter contre la famine de la population sont toujours négligés et étouffés par certains responsables des services étatiques, soit pour leurs intérêts, soit pour ceux de certains lobbies.
Mais pourquoi et comment concrètement ces opérateurs économiques ont combattu les produits de Bukangalonzo? D'après les renseignements d'un responsable du parc agro-industriel, lorsque Bukangalonzo avait mis ses premiers produits sur le marché en 2015, un sac de semoule importé coûtait 32 000 francs à Kinshasa. Celui produit par Bukangalonzo était vendu à 19 000 francs congolais. Le sac de farine de maïs coûtait 25 000 francs, alors que celui produit à Bukangalonzo était à 16 000 francs congolais, ce qui aurait déstabilisé les importateurs des vivres basés à Kinshasa qui, selon cet ancien cadre, ont utilisé tous les moyens pour faire disparaître les produits Bukangalonzo sur le marché avant l'arrêt total du projet. On écoute le témoignage sous couvert d'anonymat recueilli par Michel Kifindangoy.
Ce qui a le plus cloué le projet, c'est la vente de la mauvaise image en disant que la meilleure qualité de la semoule produite à Bukangalonzo était envoyée en Afrique du Sud, alors que c'était totalement faux. Mais par rapport au prix ici sur place, ça a eu un impact. Mais le plus grand combat que nous avons aussi connu est dans la concurrence sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui achetaient nos produits, mais sur le marché, on ne les voyait pas. Ces opérateurs économiques achetaient toute notre production de semoule à 19 000 francs. Ils allaient la revendre à 22 000 francs. Mais ils changeaient des sacs et revendaient la même marchandise beaucoup plus cher dans d'autres emballages que ceux de Bukangalonzo. Pourquoi? Parce que quand les gens verront Bukangalonzo, ils vont dire que ça, c'est un produit Kabila. Or, quand on a produit, c'était pour la population et ceux qui nous achetaient, en gros, étaient très contents de la qualité de notre semoule. Plusieurs Quinois ont donc consommé la semoule de Bukangalonzo sans le savoir.
Dans l'actualité, sachez aussi que le chef de l'État est arrivé hier après-midi dans la ville de Beni, en provenance de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu où il est arrivé depuis samedi dernier. Selon des sources officielles, ce mercredi, le président de la République se rendra à Kasindi Lubiria, commune rurale frontalière avec l'Ouganda, pour lancer les travaux d'asphaltage de la route Kasindi Beni Butembo. Cette route d'intérêt économique ouvre la voie à l'Afrique de l'Est et à l'océan Indien. Mais avant de s'envoler pour Beni mardi, le président de la République a annoncé dans une adresse à la nation depuis la ville de Goma une série de mesures pour lutter contre la troisième vague de COVID-19. C'était dans un message diffusé en direct sur la RTNC après une réunion de concertation avec le gouvernement et le comité de riposte. Ces mesures annoncées avec effet immédiat exigent le strict respect des mesures barrières en tout lieu, même si par exemple les écoles et universités demeureront ouvertes. Un condensé dans ses propos recueillis par Bernard Denyangui.
Il s'observe depuis quelques semaines une augmentation persistante du nombre de personnes infectées qui conduit nos experts à confirmer l'émergence d'une troisième vague. En raison de la résilience de la COVID-19 et des différentes mutations, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes, le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin, le port du masque obligatoire, ainsi que le strict respect des gestes barrières dans tous les lieux publics, l'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics, l'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains, ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils et veillées mortuaires dans les salles et les domiciles. Les contrôles sanitaires aux postes de frontières nationaux seront renforcés. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. Les établissements scolaires et universitaires demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières.
Nous sommes bien le 16 juin aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain, lancée pour la première fois en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, actuellement Union africaine. Cette journée rend hommage aux enfants qui ont pris part au soulèvement des Soweto en 1976. Cette journée vise également à sensibiliser sur la situation des enfants en Afrique. Le thème de cette année, l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. Mais quelle est la situation de l'enfant en conflit avec la loi? Jean-Pierre Elali. Coco.
Le 16 juin 1976 est historique. À Soweto, des milliers d'écoliers ont marché pour protester contre la mauvaise qualité de leur éducation. On connaît la suite. Des centaines d'étudiants ont été abattus. Qui plus est, plus d'une centaine de personnes ont été tuées lors des manifestations qui ont suivi cet événement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette journée vise à sensibiliser sur la situation des enfants et sur leurs droits, notamment ceux liés à l'éducation et à la santé. Le thème de cette année 2021 relance donc le débat de l'accès à un système de justice adapté aux enfants. En RDC par exemple, le décret du 5 janvier 2011, pris sous l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, crée dans chaque ville et dans chaque territoire une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants et ce, conformément à la loi portant protection de l'enfant. Cependant, 10 ans après ces décrets, la situation de l'enfant en conflit avec la loi n'est pas luxuriante malgré quelques efforts engrangés dans ces domaines. Les conditions carcérales des enfants, leur droit à l'alimentation et aux soins de santé, pour ne citer que cela, laissent encore à désirer. À cela s'ajoute le manque de juges spécialisés et des tribunaux pour enfants dans certains coins du pays.
Toujours dans le cadre de la célébration ce 16 juin de la Journée internationale de l'enfant africain, à Kinshasa, la chef de la MONUSCO et le représentant de l'UNICEF en RDC ont choisi l'Institut commercial de Ngaliema, une école de l'ouest de la capitale, pour s'associer à cet événement, ce en conférant COVID-19 oblige avec une trentaine d'élèves de 12-15 ans de cet établissement scolaire. C'était hier, reportage d'Honoré Missenga Kalala.
Tout s'est passé sans protocole et dans une ambiance bon enfant entre la trentaine d'élèves sélectionnés par l'école, filles et garçons, et leurs hôtes du système onusien. Près d'une heure d'échange sous forme de questions-réponses autour de divers sujets, rôle de l'UNICEF, conditions de scolarité, conditions de vie, droits de l'enfant, droits de la femme, enfants de la rue et j'en passe. Bintou Keïta et Edouard Beybeder ont répondu à toutes ces questions, mais aussi ont écouté non sans intérêt ce que certains de leurs interlocuteurs ont dit de ce qu'ils rêvent devenir dans la vie, les impressions de la chef de la MONUSCO.
Bravo pour maintenir vos rêves et puis ne laissez personne, mais absolument personne, vous détourner ce problème.
Et le représentant de l'UNICEF de renchérir.
Une chose qui me touche toujours, je parle avec vous qui avez 15 ans, 14 ans, 16 ans, c'est la franchise et c'est le cœur qui parle.
Quelques élèves ont eux aussi exprimé leurs sentiments.
Leur présence ici vraiment m'a rendu heureux.
Ce que j'ai retenu de la part de Madame Keïta et de Monsieur Edouard, ils nous ont tellement donné du réconfort et que l'UNICEF est là avec nous pour soutenir les enfants abandonnés.
Les bâtiments de l'Institut commercial d'Engalema ont été construits en 1954.
Actualité, Afrique monte.
L'ancien président de la Zambie, Kenneth Kaunda, 97 ans, a été hospitalisé dans un hôpital militaire à Lusaka. Il souffre d'une pneumonie, mais il n'a pas le Covid et son état de santé s'améliore, a affirmé hier son assistant. Le problème de pneumonie revient régulièrement chez le père de l'indépendance de la Zambie et chaque fois que vous entendez qu'il est à l'hôpital, c'est à cause d'une pneumonie, a affirmé son assistant à l'AFP.
L'invité.
Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège depuis plus d'un mois. Cependant, les groupes armés continuent à y être actifs en dépit des sensibilisations menées par les autorités sur le désarmement et la démobilisation, mais aussi des actions militaires. Jacques Katembo, coordonnateur du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire au Nord Kivu, affirme que la présence du chef de l'État dans l'est du pays va changer la donne. Il le dit dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur Katembo Jacques Louko, bonjour.
Bonjour.
La province est sous état de siège, mais les groupes armés continuent à être actifs. Qu'est-ce que vous en dites?
En fait, l'état de siège, nous l'avons salué, tout le monde au Nord Kivu. Nous avons sensibilisé tous les groupes armés du Nord Kivu pour dire que l'état de siège implique leur reddition volontaire. Et les groupes armés ont saisi notre message, le message du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les préparer pour leur reddition volontaire, pour donner la chance aux FARDC de traquer seulement les ADF Nalu qui sont étrangers.
Alors, cette sensibilisation, vous l'avez commencée il y a des années et ça n'a jamais abouti à un résultat escompté. Quelle particularité il y a? Parce que d'un côté, vous sensibilisez, de l'autre côté, ces groupes armés continuent à commettre des exactions.
Ok, les groupes armés ont attendu notre message et les groupes armés ont signé des actes d'engagement que vous venez de voir. Nous avons déjà la cartographie des groupes armés au niveau du Nord Kivu qui sont prêts à se rendre, mais
Ils sont à combien d'heures?
Aujourd'hui, nous comptons une quarantaine de groupes armés dans tous les territoires du Nord Kivu. Nous les avons identifiés, on peut les localiser, on connaît leurs chefs, on connaît même leurs armes. Mais aujourd'hui...
Est-ce qu'ils continuent à détenir,
à
user?
Oui, ils sont en train de continuer à les user, mais nous les avons déjà sensibilisés, ils sont prêts. Nous espérons que le chef de l'État, qui est l'initiateur du DDRC, va lancer l'opérationnalisation de cette structure. Et nous espérons que dans quelques temps, pour ce qui est des groupes armés locaux, nous espérons que la province du Nord Kivu sera la première à retrouver sa sécurité.
Cet espoir, la population et même ses groupes armés le vit depuis de nombreux mois. Donc, on ne sait pas quel jour ça va se concrétiser, le déclenchement de ces processus. Qu'est-ce qui bloque?
Ce qui bloquait le déclenchement de ce processus, je pense que il fallait d'abord qu'on prépare le terrain. On ne peut pas faire sortir un groupe armé avant de construire un centre de cantonnement, avant de lancer les activités.
Les centres de cantonnement, il y en a eu déjà. À Kalunguta, il y a des Mai Mai UPLC. À Goma également, il y en a eu. D'autres qui sont rentrés dans la brousse. À Kalunguta, les Mai Mai qui commencent même à combattre l'ADF. Vous voulez préparer jusqu'à quand pour déclencher le processus?
Le chef de l'État lui-même avait dit que c'est lui-même qui viendra lancer le processus. Et nous espérons, comme il est déjà dans nos murs, les groupes armés qui étaient en train d'attendre les DDC doivent se frotter les mains parce que le chef de l'État, il est déjà là. Dans quelques matins, nous espérons que le DDC va commencer.
Le chef de l'État, à son avant-dernier passage à Goma, avait promis un montant pour ce processus-là. Et ça fait déjà près d'une année. Mais qu'est-ce que vous en savez?
Ce que je sais, que le chef de l'État, il est préoccupé par ce problème. Et nous espérons que le chef de l'État, s'il est aujourd'hui au Nord Kivu, c'est à cause de sang qu'il vient.
Alors, quel message concret vous vous adressez à tous ces groupes armés, tous ces miliciens qui continuent à détenir leurs armes, qui continuent également à commettre des exactions contre la population, en attente de ces processus, ces fameux processus de désarmement, de mobilisation et recensement communautaire. Quel message?
Le message, c'est que tous les groupes armés qui sont en train de nous suivre, ils doivent être calmes et attendre le processus qui va bientôt commencer. Mais en attendant ce processus, nous demandons aux groupes armés de laisser les atrocités et de se préparer pour le DDR. Parce que nous savons qu'au niveau du Nord Kivu, tous les groupes armés qui sont en train d'intervenir disaient qu'ils protégeaient leur population. Il est temps maintenant de se désengager et de laisser la sécurité entre les mains des FARDC, parce que la sécurité doit être assurée par les FARDC, non pas par les groupes armés.
Et quel message adressez-vous au gouvernement congolais, particulièrement au chef de l'État?
Pour ce qui est des autorités, c'est question de leur demander d'activer le DDRC, qui est le seul processus qui peut amener la paix. Parce que même si on peut traquer les groupes armés ne seront pas éliminés. La seule solution pour la pacification du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est d'activer le processus DDR communautaire. Parce qu'avec ce processus, on va désarmer, on va démobiliser, mais aussi on va resserrer chaque élément dans sa communauté.
Dans le même sens, en Ituri, il y a le groupe armé FRPI qui était cantonné, d'ailleurs qu'il est jusqu'à présent. Ils ont même signé un accord de paix avec le gouvernement. Ils ont même été symboliquement désarmés. Mais les choses traînent toujours. Ne voyez-vous pas que la responsabilité de tout ça incomberait au gouvernement?
Chaque chose a son temps. J'espère que l'État est arrivé. Le chef de l'État, il est à l'est du pays.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le coordonnateur du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, DDRC au Nord Kivu, répondait aux questions de Sadiq et Aboubakar. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Irung Mouchinj. Merci de nous avoir suivis.